hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Corinne Pelluchon. Corinne Pelluchon, vous êtes philosophe spécialisée dans les questions déontologiques, dans les questions éthiques. Vous avez fait votre thèse sur Léo Strauss. Pourquoi ?
Léo Strauss, parce que d'abord il était peu connu et ou mal connu.
Il l'est toujours pas assez d'ailleurs.
Absolument. Et puis parce que je trouve qu'il faisait une critique constructive de la démocratie en reposant la question de savoir ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu avec la critique par Spinoza de la religion de la révélation, avec une réflexion sur peut-être la critique en fait du primat du juste sur le bien, comment en fait tout en maintenant les institutions démocratiques, mais comment pointer peut-être les limites des droits de l'homme, en tout cas leur insuffisance pour régler certaines questions. Donc je trouvais que c'était une pensée tout à fait intéressante et moi je me suis surtout intéressée, comme Pierre Bourette d'ailleurs, au Strauss allemand et juif, au texte des années 30 en fait, hein, puisqu'il a émigré aux États-Unis en 38 et je trouve que le jeune Strauss est peut-être plus intéressant, celui qui s'intéresse donc à Maïmonide, à la question de savoir ce qu'est le politique finalement, qui n'est pas seulement la coexistence pacifique des libertés. Alors maintenant, les réponses straussiennes à la crise, la démocratie, au fait aussi qu'on a sorti, on a oublié la question de savoir pour comment penser la fin de l'homme, peut-être que les réponses straussiennes à ce problème ne sont pas suffisantes, sont peut-être un petit peu trop anti-modernes. Mais le geste était tout à fait passionnant.
Ensuite, vous êtes intéressé à l'œuvre de Thomas Hobbes. Est-ce que c'était justement la décision et la volonté de comprendre la philosophie politique qui vous a guidé ?
Ben, Hobbes, c'est-à-dire que Strauss avait écrit deux livres sur Hobbes. Un en anglais, en allemand, et ensuite qui a été traduit en anglais dans les années 30, tout de suite, la philosophie politique de Hobbes. Et il y en avait un autre qui était inachevé et qui a été écrit en 34 et publié pour la première fois par Heinrich Mayer en Allemagne en 2001 ou 2002. Et moi, je me suis dit, j'avais trouvé une lettre à Scholem où il disait que ce serait son premier livre posthume. Eh bien, je l'ai traduit et je trouvais que c'était utile. Et je me suis intéressée à Hobbes, donc en même temps que je faisais cette thèse, parce que Hobbes représente aux yeux de Strauss les lumières radicales, c'est-à-dire celles qui sont liées à ce qu'il appelle un projet de civilisation marqué par la technique et la science politique comme outils pour nous permettre de nous orienter dans un monde qui est peut-être pas fait pour l'homme, donc où il n'y a pas justement cette finalité et où la philosophie politique a été remplacée par ce que Strauss appelle la pensée politique, qui met de côté la question de savoir ce qu'est le bien de l'homme, la fin de l'homme, avant qu'il ôte tout perfectionnisme. Mais voilà, Hobbes, c'était un moment important. Bien que ce soit pas, je trouve que vraiment là où Strauss est fondamental, enfin vraiment passionnant, c'est sur Spinoza, parce que le contexte de son retour à Spinoza, c'est aussi le contexte donc de l'échec de la République de Weimar, c'est aussi le contexte d'une réflexion à la suite de Cohen et de Rosenzweig sur la crise de la transmission. Et où piocher dans la tradition et surtout quel rationalisme est celui des Lumières. Et je trouvais que Strauss a exhibé finalement les motivations, comme il dit, du rationalisme des Lumières et qui sont liées à l'idée d'une suffisance de la raison pour prendre en charge les questions, la question de la vérité, mais aussi la question de l'organisation politique.
Nous allons écouter la voix d'Emmanuel Lévinas. Il va expliquer son approche de la notion de responsabilité, puisque c'est maintenant sur ce terrain-là que vous travaillez, Corinne Pelluchon. Dans son livre « Autrement qu'être ou au-delà de l'essence », c'est une archive des chemins de la connaissance du 11 mars 1981.
Dans ce livre, je parle de responsabilité comme de la structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. c'est en termes éthiques que je décris la subjectivité, mais il ne s'agit pas du tout d'une éthique qui vient s'ajouter à une base existentielle préalable. C'est dans l'éthique entendue comme responsabilité que ce « nous », qui se trouve le « nous » même du subjectif. La responsabilité comme responsabilité pour autrui, c'est-à-dire responsabilité pour ce qui n'est pas mon fait, mais responsabilité pour ce qui ne me regarde pas. Si vous voulez, précisément pour ce qui me regarde, précisément parce que autrui m'est abordé comme visage.
Alors comment, ayant découvert autrui dans son visage, ce qui constitue, je le rappelle, l'un des thèmes principaux du livre précédent, Totalité et Infini, comment, ayant découvert autrui comme visage, le découvre-t-on comme ce envers qui on est responsable ?
C'était précisément la tentative de décrire positivement le visage que j'excluais, vous vous rappelez, dans notre entretien précédent, de la perception pure et simple, de l'intentionnalité pure et simple. Autrui me regarde dans le sens où j'en suis responsable. J'en suis responsable sans prendre de responsabilité. Sa responsabilité m'incombe. Et encore une fois, c'est une responsabilité qui va au-delà de ce que je fais. D'habitude, on est responsable de ce qu'on fait. Et en disant que la responsabilité est initialement responsabilité pour autrui, on se ligne au contraire sur ce qu'il y a de gratuit dans la responsabilité pour autrui, sur le fait que cette responsabilité va au-delà de ce que je fais. Je suis responsable pour autrui, je dis dans autrement qu'être, de ce qu'il fait. Je suis responsable de ce qui lui arrive. Je suis responsable, je vais très loin, je suis responsable de sa responsabilité même.
Alors vous dites dans ce livre, autrement qu'être ou au-delà de l'essence, que la responsabilité n'est donc pas, comme on dirait en philosophie, un attribut de la subjectivité, enfin quelque chose qui fait partie des qualités de la subjectivité, mais que cela définit la structure même de la subjectivité.
La subjectivité est un pour l'autre, dans ce sens-là. Pas un pour soi, mais initialement pour l'autre. Et la proximité d'autrui est dans ce livre présenté comme précisément le fait qu'autrui n'est pas simplement proche de moi dans l'espace, et qu'il n'est pas proche comme mon parent, mais qu'il est proche dans la mesure où je suis responsable de lui. Et que c'est cette responsabilité pour autrui, sa proximité, est une structure qui ne ressemble pas du tout à la relation intentionnelle, au sens phénoménologique du terme, qui nous rattache dans la connaissance à l'objet, quel qu'il soit, même quand c'est un objet humain. Je peux avoir une connaissance, je peux avoir une relation intentionnelle à l'égard d'autrui aussi. La proximité ne revient pas à cette intentionnalité. Elle ne revient certainement pas au fait que autrui me reste inconnu.
C'est-à-dire que je peux très bien connaître bien quelqu'un, même si je le connais très très bien, c'est pas pour cela que je serai plus proche de lui.
Plus proche de lui.
C'est seulement quand je me sentirai responsable de lui.
Oui, mais quand le fait quand je me sens, je pense que dans l'approche d'autrui, il y a toujours une responsabilité refusée, mais que le lien avec autrui, le rapport à autrui, le rapport social, est un rapport de responsabilité, responsabilité même si je ne sais pas comment l'assumer, même si je ne sais pas quoi faire à l'égard d'autrui.
Nous venons d'entendre la voix d'Emmanuel Lévinas au micro de Philippe Nemo. C'était une archive datant de 1981, un moment de la parution de Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. Corinne Peluchon, vous avez publié un livre qui s'intitule « Éléments pour une éthique de la vulnérabilité ». Les hommes, les animaux, la nature. On reviendra sur l'élargissement que vous faites de cette vulnérabilité. Mais première question, vous revendiquez-vous de la pensée d'Emmanuel Lévinas ?
Oui, au sens où, et d'ailleurs cet extrait est magnifique parce que il s'agit de, Lévinas montre bien qu'on ne peut pas penser la responsabilité de manière psychologique ou moralisatrice, mais qu'elle est vraiment ce qui structure la subjectivité, donc placer la responsabilité au cœur de la subjectivité. Et c'est moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, et en fait c'est moins, ce que j'ai essayé de faire est moins un élargissement de ma responsabilité à d'autres qu'à autrui, à d'autres qu'aux autres hommes, donc aux animaux, mais c'est surtout, à la suite de Lévinas, cette idée de la philosophie qui n'est plus seulement une philosophie du pour-soi, mais qui, où l'individu, le sujet, intègre au cœur de son vouloir vivre, justement, une dimension éthique qui est celle des limites qu'il impose à son bon droit. C'est une remise en question d'une seule philosophie de la liberté, et je trouve que la question animale, le fait qu'il y aurait peut-être un appel de l'animal, comme dira Derrida, le fait que, parce que justement nous partageons aussi avec les animaux la sensibilité, l'animalisches Wesen, la vulnérabilité au sens de la sensibilité, l'altération du corps, le fait de vivre de nourriture, d'avoir faim, etc., et d'être mortel, eh bien, cela engage justement une réflexion où nous sommes concernés par l'animal, par ce qui arrive aux animaux. C'est-à-dire que ça, l'idée, c'est pas tant de placer, de s'intéresser à l'objet de la responsabilité. Bien sûr, c'est important de ce mouvement d'extension de la responsabilité à d'autres qu'aux autres humains. Mais c'est surtout le fait que ça nous concerne, ça nous cerne, ça, l'idée que les violences infligées aux animaux nous blessent et font que blessent aussi, nous atteignent au sens où peuvent entamer l'image que nous avons aussi de nous-mêmes et faire que nous ne pouvons plus supporter. Donc c'est vraiment le sujet de la responsabilité, le quiz du qui suis-je qui est interpellé. Et je trouve que ça, c'est vraiment important. Mais l'idée de l'extension quand même à d'autres qu'à autrui, eh bien, on la trouve quand même dans Autrement qu'être, plus que dans Totalité infinie, où justement, dans Totalité infinie, c'est le visage, et seul l'homme, pour Lévinas, a un visage. Mais dans Autrement qu'être, il parle du fait que, justement, seul un être vulnérable peut être responsable, et il y a quand même cette idée de la compassion qui est tout à fait intéressante. Et bon, la vulnérabilité, évidemment, on le partage avec les humains, avec les animaux. Mais vraiment, donc là, en ce sens-là, moi, je trouve que la grandeur de Lévinas, c'est d'avoir non seulement pensé le primat de la responsabilité pour la liberté, mais surtout d'avoir montré que installer comme ça au cœur du sujet la responsabilité, qui est une catégorie, et même la substitution, puisqu'il est question de ça, une responsabilité que je n'ai pas choisie, mais qui s'impose à moi, c'est souligner aussi la force de la vulnérabilité, si je puis dire. Le fait que nous pouvons être concernés par ce qui arrive aux autres et que nous ne sommes pas seulement définis par le rapport à soi, par des échanges, le contrat social, puisqu'il en est question dans ce qu'il a dit, ou la socialité n'est pas seulement structurée par la réciprocité entre les droits et les devoirs. Et ça, moi, ça me parle, et il me semble que là, ça dessine une pensée, même politique, très forte et qui peut s'emparer de, justement, enfin, penser notre responsabilité envers des entités qui ne sont même pas irritables, comme les écosystèmes, où il n'y a pas la sensibilité là. Et donc je trouve que placer vraiment la responsabilité au cœur du sujet, c'est donc construire une autre philosophie qui, comme il le dira dans les ouvrages que je trouve, enfin les textes que je trouve magnifiques, les enseignements, les nourritures des années 50 qui ont été récemment publiés dans le volume 2 des œuvres de Lévinas chez Grasset, eh bien il dit ça remet en question le bon droit de sa liberté. Alors que les philosophies modernes, les philosophies contemporaines ont rarement, malgré leur grandeur, pensons à Rawls, ont rarement mis en question le bon droit de la liberté. Cette question peut-être sans réponse aussi de notre droit à être. Du fait que justement les droits de l'homme, il ne faut pas seulement les regarder du côté de ce que nous avons, mais de ce que justement du partage des ressources, du partage des nourritures et de ce qu'une philosophie de la corporéité, qui est plus qu'une philosophie où on s'interroge sur la mortalité, le fait d'avoir un corps, mais qui est justement une philosophie où on s'interroge sur la vulnérabilité, mais aussi sur la jouissance, sur ce dont nous avons besoin pour vivre. Et bien une philosophie comme cela, évidemment, suppose autre chose, même que le contrat social que nous avons actuellement, qui est finalement structuré par la coexistence pacifique des libertés humaines. Donc là, je trouve qu'il y a une promesse. Il y a eu d'une philosophie politique que Lévinas n'a pas fondée, mais dans cette pensée-là, dans cette ontologie, j'emploierai le terme, même si ce n'est pas une ousiologie et que justement Lévinas récusait le terme comme ousiologie, mais il y a une promesse dans cette pensée-là d'une philosophie politique qui me semble très précieuse et peut-être vraiment à même de nous aider à construire un monde plus juste et plus adapté, et qui permettrait de surmonter certaines crises que nous rencontrons, dont la crise environnementale n'est qu'une manifestation. Et la crise environnementale n'est évidemment pas seulement une crise de ressources, c'est une crise de la subjectivité, c'est une crise du rapport à autrui et du rapport au corps. Et je crois que voilà.
Double parrainage philosophique dans votre élaboration de votre corpus philosophique, Corinne Pelluchon. Emmanuel Lévinas, mais aussi Jacques Derrida, nous allons l'écouter parler de ses intentions dans ce livre, « L'animal que donc je suis », titre extraordinaire. C'est une archive du jour au lendemain, du 16 juin 1999, au micro d'Alev Einstein.
Un des motifs organisateurs de mon propos, c'est de marquer que la philosophie cartésienne de l'animal machine, de l'animal qui n'a pas d'âme et qui n'a pas de langage, et je propose une longue analyse de ces textes de Descartes, à la fois bien connus et toujours à réinterpréter, c'est que ce cartésianisme, cette pensée du cogito depuis laquelle on déduit une certaine théorie de l'animal, commande de façon directe ou indirecte, philosophique ou non, toute la modernité de notre rapport à l'animal. L'animal, objet, victime naturellement de traitements qui ont toujours été cruels, mais dont la modernité aggrave singulièrement la cruauté, de l'animal qui ne parle pas, ne répond pas surtout. Ce qu'il faut dire, c'est que Descartes ne tient pas l'animal simplement pour incapable de signifier, de produire, de répéter des signes, mais incapable de répondre à une demande, à une question précise. Et c'est la question de la réponse. C'est moins la question du langage que celle de la réponse. Que veut dire répondre ? Voilà, que veut dire répondre ? Et donc, j'essaie de montrer que ce cartésianisme, sous des formes différentes, commande aussi bien l'analyse kantienne de l'animal, qui ne peut pas dire « je », que plus près de nous, l'analyse lévinassienne. Alors j'interroge un texte très précis de Lévinas. Ce n'est pas dans le volume. Ce sont des choses que j'ai dites après, mais qui ne sont pas dans le volume. Que l'analyse lacanienne de l'animal. Mmh. Et c'est ce cartésianisme, cette époque cartésienne, que j'essaie d'analyser, d'objectiver en quelque sorte. Étant entendu que le rapport à l'animal, de l'homme à l'animal, a une histoire. Que cette histoire est scandée de façon très forte, bien que difficile à préciser, que le concept, le mot même, je ne dis pas le concept, parce que je crois que l'animal n'est pas un concept, que ce qu'on met au singulier quand on parle de l'animal ne répond à aucune réalité. Il n'y a pas quelque chose comme l'animal. Et déjà, le fait de ranger tous les vivants non humains sous la catégorie homogène et universelle de l'animal, est une absurdité philosophique et une violence, et le début de la violence. Donc, il n'y a pas l'animal. Il y a le mot animal, je propose de parler de l'animal, ce qu'on appelle l'animal, c'est-à-dire ce mot d'animal sous lequel on classe absolument toutes les organisations du vivant qui ne sont pas nous. Eh bien, ce rapport au vivant non humain a une énorme histoire. Et avant Descartes et avant le Moyen-Âge, encore chez Montaigne, ce rapport n'est pas empreint de la violence objectivante et cruelle qui sera la marque de la modernité. Chez les Grecs, le rapport est encore différent. Donc j'essaie de, non pas de périodiser, mais de donner à penser la complexité de cette histoire, de notre rapport aux animaux, à ce qu'on appelle l'animal, et par conséquent à ce que nous appelons nous les hommes.
Cet oubli du vivant, radicalement vivant, du vivant dans sa nudité, est-ce que l'enquête d'Héridienne sur la manière dont l'animal est nommé, c'est ce qu'il met au jour ? Non seulement il y a un appel de l'autre et de l'animal qui me regarde, mais de plus, l'homme ne se définit pas avant tout par la liberté, ni par un rapport à un mourir authentique. La prise en compte de la compassion implique une réhabilitation de la sensibilité qui rompt avec tout ce qui survit. Écrivez-vous, Corinne Pelluchon, dans « Éléments pour une éthique de la vulnérabilité » à propos des théories de Jacques Derrida sur l'animal. et vous poursuivez, vous êtes une philosophe qui poursuivait et allait encore plus loin que Jacques Derrida.
Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai essayé de ne pas le répéter et parce que lui, ce qu'il a dit, d'ailleurs, dans l'extrait que nous avons écouté, il a...
Il ne parle même plus d'animal, il parle d'animaux. D'animaux,
oui, pour nommer effectivement la manière dont on a gommé l'extrême diversité des vivants, hétérogénéité des normes. Mais il se situe dans ce passage, dans la phase déconstructive, la phase déconstructive de sa pensée, où il traque la manière dont nous avons pensé l'animal, justement au singulier, en gommant sa diversité, mais surtout, on a pensé l'essence de l'animalité par opposition à une essence de l'humanité, dont il s'agissait de trouver un propre. Donc lui, ce qu'il va, c'est démultiplier les propres et les manières d'accéder au réel et montrer que c'est plus riche que cela. Mais moi, j'ai essayé de montrer, finalement, de poursuivre la pensée de Derrida en insistant sur la phase constructive qu'elle pouvait avoir et que ses successeurs, parfois, ne soulignent pas ou pas assez. Je trouvais que, finalement, Derrida faisait de la question animale une question, le lieu d'une interrogation sur l'homme, au sens où la prise en compte des animaux, de ce que nous leur faisons, eh bien, est une remise en question de la manière dont nous avons tracé les frontières de la morale, en mettant d'un côté ceux qui avaient droit à la considération morale, à la considérabilité morale, et puis ceux qui n'étaient que des animaux qu'on pouvait parquer, castrer à vif, etc., comme les cochons, ou comme ces poules qui ne peuvent vivre que sur une surface, une surface analogue à celle d'une feuille A4. Mais il y a ça, et puis il en a fait aussi le lieu d'une interrogation politique. Et moi, en fait, j'ai poursuivi cela en disons que la question animale était l'épreuve de notre justice, au sens où la manière dont nous forçons les animaux d'élevage, appelés animaux de rente, à s'adapter aux conditions d'un élevage qui n'est pas un élevage, qui est une production en série finalement, eh bien, la manière dont nous les forçons à s'adapter aux conditions de l'élevage industriel au mépris de leurs besoins, au mépris de leurs besoins éthologiques, au mépris du besoin des poules d'étendre leurs ailes, ou des cochons de fouiner, eh bien, cela trahit met en question les fondements de notre droit, parce que ça souligne que nous nous octroyons un droit absolu que nous n'avons pas, puisque ces normes éthologiques, nous pouvons les reconnaître, mais nous n'en sommes pas les auteurs. La deuxième raison pour laquelle la question animale pose et l'épreuve de notre justice, c'est qu'on voit bien que l'élevage industriel, par exemple, eh bien, est fondé sur un déni du sens de l'élevage, qui est confondu avec l'industrie, et sur une organisation de la production à partir d'un chiffre optimal.
Là, vous reprenez les thèses de Heidegger.
En un sens, mais surtout, là je m'étais inspirée de ce que dit Christophe Dejour sur l'organisation du travail et je trouve que l'élevage industriel est un coup de projecteur sur l'organisation du travail et sur une manière de faire de la rentabilité ce à partir de quoi tout est organisé et cela, les animaux n'en sont pas les seules victimes, les hommes aussi en sont les victimes. Et puis la troisième chose, et là ça reprenait Derrida quand il dit que la question animale est peut-être une étape pour la construction d'une autre démocratie. C'est vrai que s'il y a un appel de l'animal, si le sort des animaux et la violence que nous leur infligeons nous blessent et nous mettent en question, alors pourquoi ne pas donner une voix politique à ceux qui, ils sont de plus en plus nombreux, ne peuvent plus supporter l'image d'eux-mêmes que renvoie c'est ce que nous faisons aux animaux. Et on voit bien, là par exemple pour le foie gras, ces animaux qui vont vivre que quelques semaines et qui vont ingurgiter 450 grammes de nourriture en quelques secondes avec un tube de 25 cm qui allaitent, qui suffoquent, dont beaucoup meurent. Je veux dire, on ne peut pas supporter cela. Et ça veut dire que la question animale, le traitement infligé aux animaux n'est pas seulement une question morale, mais c'est une question politique et ça remet en question, effectivement, le quiz du qui suis-je. C'est ça, l'animal que donc je suis. C'est évidemment, je partage avec l'animal cette animalité, et ici de Bentham, Derrida, mais c'est aussi l'animal qui me poursuit, qui fait que qui suis-je pour accepter cela, et quelle organisation politique, quelle société, quelle civilisation même, avons-nous accepté, ou dans quoi avons-nous glissé? Et peut-être est-il temps de rectifier un peu les choses. Et donc voilà, il y avait cette.
Vous allez encore plus loin. On a compris que vous défendiez cette histoire d'animalité en nous et de respect des animaux comme constitutif de notre être propre et notre possibilité d'être au monde. Mais vous avez aussi des chapitres qui traitent de la nature. Et je crois que c'est la première fois dans la philosophie que je vois une analyse de la part d'une philosophe qui nous fait penser que la nature elle-même est un acteur, que la nature est vivante, que la nature nous interpelle, qu'avec la nature on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas pour autant dans les sillons de l'écologie, mais vous vous situez dans un dialogue philosophique de tutoiement avec la nature. L'homme, l'humanité que nous avons en nous, ne peut être véritable que si nous acceptons que la nature est une interlocutrice.
Alors, je ne sais pas si c'est un tutoiement avec la nature, mais assurément, la nature est un acteur de l'histoire. Et l'histoire ou la politique n'est pas seulement un jeu à deux entre humains et entre nations. Bien plus, l'idée, c'était de montrer que jusqu'à présent, la règle d'or ne fait pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Eh bien, cette règle d'or, elle ne suffit pas. Au sens où, bien sûr, par rapport au rapport entre humains, ça peut suffire. De même, le libéralisme politique qui fait qu'on fait référence à la force coercitive de la loi quand je crains dommage à autrui, c'est très bien parce que ça évite la contrebande contaminante de jugements moralisateurs en politique qui vont condamner avec des arguments moralisateurs certaines pratiques, et ça existe encore. Mais quand on s'intéresse comme moi au dommage qu'on crée ou que son mode de consommation entraîne sur les écosystèmes et dont d'ailleurs les générations futures aussi auront à payer, pour lesquelles elles auront à payer, eh bien on voit bien qu'il faut un décentrement de l'éthique. Alors quel décentrement de l'éthique est nécessaire pour justement faire de l'environnement, de la nature plutôt, un objet de l'éthique? Et là, je dirais qu'évidemment, ce n'est pas la catégorie de vulnérabilité parce que les écosystèmes, c'est plutôt la catégorie de la résilience. L'idée, et puis la vulnérabilité pour moi, c'est surtout une interrogation sur nous, sur à la fois notre fragilité, ce dont nous vivons, et notre capacité aussi à être responsable. Mais là, il s'agit vraiment d'une interrogation sur le décentrement de l'éthique, voire les catégories morales qui peuvent servir de méta-éthique à l'écologie. Donc il y en a quelques-unes dont j'ai fait la liste. Et puis, mais qu'il faut manier avec précaution. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus aujourd'hui, c'est en dépassant le dualisme nature-culture, en fait, que les éthiques environnementales anglo-saxonnes consacrent encore, et que les philosophies de la liberté ou de l'existence consacrent encore, évidemment, c'est d'installer, si vous voulez, de penser, justement, que nous vivons, comme disait Lévinas, de bonne soupe, de cinéma, de la ville, et donc dans un milieu hybride, à la fois naturel et culturel, et même les écosystèmes, l'homme y a sa part, ils ont une historicité aussi, et donc l'idée, c'est approfondir la philosophie de la corporéité qui était essentielle à l'éthique de la vulnérabilité, en allant vers une philosophie que j'appelle une phénoménologie des nourritures, où justement est prise en compte aussi le fait de ce dont nous vivons et qui ne nous a servi pas, mais qui a aussi une certaine beauté. Et effectivement, la nature, ce n'est pas seulement quelque chose dont on tirera un profit. La forêt n'est pas seulement ce qu'on exploitera pour l'industrie forestière, contrairement à ce que dit Heidegger, mais il y a une manière de faire espace, d'habiter la terre, oikos, et de partager les nourritures avec les autres hommes et les autres espèces. Et l'idée, c'est d'installer justement l'écologie au cœur de l'existence. Donc d'une philosophie de l'existence et de décrire des structures fondamentales de l'existence qui ne soient pas structurées seulement par la temporalité, par le fait que nous serions la connaissance du fait que nous allons mourir, effectivement, peut nous pousser à vouloir donner existence à ce qui compte pour nous. Évidemment, c'est très important, mais il y a aussi l'espace, il y a aussi ce rapport aux nourritures. Lévinas disait souvent du Dasein de Heidegger, le Dasein n'a jamais faim. Et je trouve que moi, je trouve que l'alimentation, et je parle de nourriture pour ne pas parler de ressources, et aussi parce que l'alimentation, c'est vraiment, je trouve que quand on mange, même quand on est seul, eh bien, on est déjà en rapport avec autrui, parce qu'il y a eu une production des aliments, et on encourage, si on mange de la viande ou pas, si on mange tel ou tel produit, tel ou tel type de production, de distribution. Il y a aussi l'idée de ce dont nous vivons. Et je trouve que, en fait, l'acte de manger est un acte moral et politique majeur qui fait de l'éthique, non pas un chapitre de la philosophie morale ou une discipline normative, mais qui fait de l'éthique la dimension du rapport aux autres par le rapport aux nourritures. Et le rapport aux autres étant les animaux, les hommes à venir, mais aussi les hommes du passé, qui nous ont transmis certaines traditions, etc. Donc je trouve que là, il y a quelque chose de très profond pour dépasser le dualisme nature-culture dont je parlais tout à l'heure, et qu'on retrouve dans des philosophies de l'existence qui n'ont peut-être pas suffisamment pris au sérieux, mais ces choses, bon, évidemment, elles ont pris au sérieux beaucoup, par exemple, chez Antionas, chez Hannah Arendt, chez Lévinas, beaucoup de choses. Mais là, il s'agirait vraiment de comme toujours, l'écologie, pour moi, ce n'est pas seulement un intérêt pour l'environnement, c'est aussi, comme la bioéthique est un laboratoire pour la pensée, qui stimulait la pensée pour affiner des catégories et tester des théories, et bien là, l'écologie pousse à inventer, pousse la philosophie à une certaine créativité. Et ça va... Qui pointe vers une philosophie première pouvant procurer à l'écologie peut-être la philosophie dont elle a besoin. Et une philosophie qui n'est pas liée à une religion, qui n'est pas liée à l'idée d'une terre, d'une nature mère, parce que la nature est parfois injuste et cruelle, mais qui est liée à cette réflexion qui approfondit la philosophie de la corporéité que j'avais déjà un petit peu mis en place.
Nous allons écouter la voix de Claude Lévi-Strauss qui va parler des rapports de l'homme à la nature. C'est une archive de Radioscopie, un entretien avec Jacques Chancel, du 16 octobre 1971.
Claude Lévi-Strauss, l'enfer, en fait, n'est qu'en nous-mêmes.
C'est en tout cas la leçon qui, je crois, se dégage des enseignements moraux, des mythes des Indiens que j'étudie dans mes livres. C'est précisément à l'opposé d'une attitude qui est si fondamentalement la nôtre. L'idée que, enfin, l'homme n'est pas du tout, enfin, le seigneur et maître de l'univers dont il peut disposer à sa guise, qu'il en est une partie et qu'il est responsable de l'intégrité et de la santé de cet univers. Et il y a une très belle croyance chez les Indiens américains, et on la retrouve aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, que le capital de vie qui est dévolu aux hommes, aux animaux et aux plantes, est constant, et que par conséquent, toute destruction de la vie animale ou végétale doit être compensée par une perte de vie humaine. De sorte que chaque année, les sorciers, ceux que nous appelons les chamans dans notre jargon, les sorciers du groupe, se rendent dans la forêt, conférer avec les maîtres des plantes et des animaux, et ils passent une sorte de contrat. Qui est d'ailleurs rédigé sous forme de peinture rupestre. Le compte exact du nombre d'animaux qu'une certaine tribu aura le droit de tuer pour ses besoins alimentaires et qu'elle ne devra pas excéder sans mettre en péril sa propre existence. Et cette idée, enfin, de la participation de l'homme à un tout qui est plus vaste que lui, à une vie dont il n'est au premier chef qu'une émanation ou qu'une manifestation. Eh bien, ça, c'est une de ces grandes leçons que nous pourrions, me semble-t-il, encore retenir des peuples que nous appelons primitifs.
Avoir la responsabilité de soi-même, avoir un égard pour la vie, ce sont des questions que vous vous posez depuis longtemps. Corinne Peluchon, vous avez publié un livre qui s'intitule « L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie ». Et là, l'actualité rejoint votre propre démarche philosophique avec la remise du rapport du professeur Sicard, l'histoire de l'euthanasie. Vous avez publié un article remarqué qui s'intitulait « L'euthanasie, un choix de société » et qui était sous-titré « Un droit à la mort serait contraire aux valeurs des médecins et aux sources morales de la démocratie ». Êtes-vous contre la possibilité de s'assigner à soi-même sa propre fin de vie ?
Alors, l'article que vous citez était de 2007, et en fait, j'en ai fait un autre récemment dans l'IB en 2012, où j'ai un petit peu évolué. Parce qu'en 2007, j'étais plutôt contre, et je m'en explique, parce qu'effectivement, le suicide assisté, c'est pas comme le suicide, c'est pas seulement un acte privé, ça implique une structure de soins, et il y a l'idée de ne pas accéder forcément, enfin, c'est, disons que le suicide assisté serait pas forcément la meilleure réponse à une demande qui est très, très ambivalente. Quand on voit les personnes en fin de vie, il y a une colère, il y a tout un tas de choses, et souvent, pas toujours, leur demande disparaît quand elles ont accès aux soins palliatifs, et nous savons aujourd'hui que les soins palliatifs, tout le monde les a pas, il y a une distribution inégale et surtout ils sont prodigués trop tardivement, une semaine avant le décès. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui meurent mal. Donc, ça explique les demandes d'euthanasie, ça peut expliquer aussi peut-être certaines euthanasies clandestines ou certaines demandes de suicide assisté. Alors maintenant, moi j'ai beaucoup travaillé avec les soignants sur le sens du soin, sur l'impact que pourrait avoir une légalisation, je distinguerai tout à l'heure de la dépénalisation, une légalisation du suicide assisté sur mesure tous les efforts que nous faisons pour aider les personnes atteintes de troubles cognitifs, de démence, à participer d'une manière ou d'une autre au monde. Donc si le suicide est banalisé, c'est très difficile après de construire une société solidaire envers les personnes les plus fragiles. Et voilà, donc ça c'est quand même très important.
Oui, parce qu'il y aurait une intériorisation de chacun de nous, plus ou moins implicite, de dire, bon, ben, voilà. Font plus partie de la société.
Ah oui, et puis dès qu'on n'a plus l'intelligence, dès qu'on n'est plus autonome au sens d'autodétermination...
Vous avez des très beaux passages sur les gens qui sont atteints d'Alzheimer dans votre livre, et vous dites qu'effectivement, on a encore plus de responsabilités vis-à-vis de ces gens-là que vers d'autres.
Ah bah bien sûr, puisqu'on soutient leur autonomie, entendue comme capacité à avoir des désirs et des valeurs, mais qui n'arrivent pas à traduire dans les actes. Donc il faut aller les chercher là où ils sont. Et au lieu de les laisser, si vous voulez, prostrer dans leur chambre devant un plateau repas ou de combler systématiquement leurs vacances. Donc là, il y a quelque chose. Il y a vraiment dans... Et moi, j'avais traduit en langage rationnel, si je puis dire, les pratiques que j'avais vues. Hein, ça ne vient pas de mon cerveau, c'est vraiment ce que j'ai vu. Et j'ai essayé de procurer à ces pratiques et à ces soignants quelques outils conceptuels leur permettant d'appuyer le travail remarquable.
Et vous avez été suivi ?
Ah, c'est-à-dire que c'est eux qui sont en avance par rapport à nous, c'est plutôt les philosophes qui sont en retard. C'est-à-dire que moi, je les ai suivis et je les ai accompagnés en traduisant à ma manière ce que je voyais. Et la plupart d'entre eux, en tout cas, ont apprécié, je pense. Puisque ils m'invitent assez souvent pour des conférences ou autres. Donc ça, c'est plutôt eux qui sont en avance par rapport à nous et par rapport aux outils, aux catégories souvent homogènes et simplistes que nous utilisons, comme l'autonomie, la dignité. C'est des catégories qu'il faut affiner à l'occasion de ce que l'on découvre justement chez ces personnes. Et la notion d'identité, même d'identité narrative, on voit bien que l'ipséité, ce qu'est une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui a perdu ses repères spatio-temporels et même la mémoire, eh bien on voit bien qu'elle est pourtant un cœur palpitant, elle existe. Mais voilà, qu'est-ce que l'identité ? Donc je trouve que c'était vraiment très stimulant. Alors pour revenir à la question de l'euthanasie, enfin du suicide assisté, moi, j'ai un petit peu évolué au sens où c'est vrai que par rapport aux personnes qui ont eu accès aux soins palliatifs, mais qui n'en veulent plus, il y en a très peu, hein, qui sont épuisées, qui sont vraiment en fin de vie, mais qui ne veulent plus d'acharnement dans l'accompagnement. Eh bien, peut-être on peut envisager de ne pas poursuivre ces personnes, les personnes qui les aident à mettre fin à leur vie. Mais c'est déjà la législation actuelle, hein, puisque je me rappelle...
C'est la loi Leonetti.
Non, c'est plutôt... La loi Leonetti va très loin et pose surtout la question du droit de tout malade à refuser tout traitement, donc quelqu'un qui ne veut plus de dialyse, et ça le condamne à terme, et l'obligation pour les soignants de lui prodiguer des soins palliatifs pour pas qu'il souffre. Mais la loi Leonetti, sa grandeur, c'est de poser une question que posent ni les législations hollandaises, belges et luxembourgeoises, c'est la question des personnes dans le coma. Et donc de placer, si vous voulez, la proportionnalité des soins au cœur d'une décision d'arrêt de limitation des traitements, qui n'est pas du tout une euthanasie, qui n'est pas du tout hypocrite. C'est vraiment l'idée que parfois, dans un premier temps, on donne toutes ses chances aux malades, aux traumatisés crâniens, parce que bon, on ne sait jamais. Et puis, au fil du temps, notamment avec les images, les outils d'imagerie cérébraux, eh bien, on se rend compte que le patient ne retrouvera jamais ses fonctions neurologiques et donc que les traitements administrés sont disproportionnés à son état. Et même lui sont pas bénéfiques. Donc du coup se pose la question de traitement disproportionné et donc d'une décision collégiale d'arrêt de traitement, mais qui n'est pas prise comme ça, sans examen clinique, sans discussion avec la famille. Et bon. Mais la question de... Il reste néanmoins, c'est très rare, mais il y a des douleurs qu'on n'arrive pas à soigner. Et donc la personne est sédatée constamment. Et puis il y a surtout des personnes, c'est vrai, c'est très rare, mais qui en ont marre. Et donc peut-être là, on peut envisager pour des cas désespérés une dépénalisation, de ne pas poursuivre. Mais c'est encore une fois, quand il n'y a pas abus de faiblesse, aujourd'hui, un médecin qui donne le produit létal à la personne qui l'administra, eh bien, n'est pas poursuivi. Il y a des textes de loi, je ne me rappelle plus exactement. Mais donc ça, là aussi, il faut connaître ça. Et c'est un passage de livre que je vais... publié « Tu ne tueras point, réflexion sur l'actualité de l'interdit du meurtre ». Il n'y a pas seulement l'euthanasie et le suicide assisté, mais il y a un passage là-dessus où je fais le point aussi sur ces mesures qui existent en France au niveau du droit pénal. Mais je crois que vraiment, donc les débats, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les débats soient faussés par des personnes qui confondent, par exemple, la question de l'aide active à mourir avec l'avortement. Ça n'a rien à voir. On peut tout à fait accepter l'interruption volontaire de grossesse, qui néanmoins n'est jamais banale, considérer que le suicide assisté, c'est pas quelque chose qu'on peut banaliser. Et puis, de toute façon, une différence majeure entre ces deux domaines, c'est que dans le cas de l'avortement, si on n'avait pas dépénalisé, eh bien, il y avait un enjeu de santé publique lié à la mort des femmes qui avortaient dans des conditions déplorables. Et c'est bien ce qui se passe dans les pays qui n'ont pas dépénalisé l'avortement. Là, la question du suicide assisté, c'est pas parce qu'on l'autoriserait que les gens mourraient mieux. C'est au contraire parce qu'ils meurent très mal, encore, que ça s'impose parfois. Parce que vraiment, même dans les maisons de retraite, moi, il m'est arrivé de voir des personnes qui n'étaient pas bien, mais vraiment pas bien. Les soins palliatifs ne sont pas assez diffusés. Et ça, c'est bon, il y a une réflexion très profonde. Et je pense que le rapport Sicard est très équilibré. Et il a pointé, Sicard, la nécessité d'une formation des médecins. D'une formation aux soins palliatifs, mais aussi d'une formation des médecins. Et j'en profite pour dire qu'il serait temps qu'on fasse en France ce que moi j'ai fait à Boston une année quand j'ai enseigné l'éthique médicale à des étudiants qui allaient devenir médecins. Je trouve que vraiment, en France aujourd'hui, la plupart des cas, en fac de médecine, ceux qui font les cours d'éthique sont des médecins légistes, des médecins. On pourrait quand même ouvrir les cours d'éthique à des gens qui viennent de la philosophie. Il y a tellement de jeunes docteurs très brillants qui n'ont pas de poste. Et puis, ce serait tout à fait, je pense qu'on pourrait monter même des partenariats avec les facs de médecine, les facs de droit, la fac de philo. Ce serait formidable de créer quelque chose. Dans certaines régions, il y aurait un public vraiment qui a besoin d'avoir justement un éclairage conceptuel sur des pratiques qu'ils connaissent très bien. Mais voilà. Donc ça, je pense que ce serait vraiment fondamental. Mais je m'explique que dans le petit livre que je vais publier en février, sur la différence entre l'homicide et le suicide assisté. Parce qu'il n'y a pas la transgression, il n'y a pas la volonté d'anéantissement, de faire taire qu'on a dans l'homicide. Il n'y a pas ça dans le suicide assisté. Mais en même temps, on se rend compte bien souvent que les demandes de mort venant de personnes notamment démentes, moi j'en ai rencontré ou très âgées, eh bien, n'étaient pas l'expression de leur autonomie, mais étaient le comble de l'hétéronomie, étaient l'intériorisation des images qu'on leur renvoie, et parfois que leur entourage leur envoie, qui leur faisait croire, leur faisait sentir qu'elles étaient de trop, qu'elles n'étaient bonnes à rien. Pour, je cite là quelqu'un, il m'avait beaucoup marqué, « Je suis bon à jeter, je suis bon à rien, il faut en finir. » Donc ça, c'est pas, là, quand quelqu'un dit cela, ça accuse plutôt la société et l'entourage. Mais il y a des cas où il y a des personnes qui sont tout à fait conscientes et qui demandent qu'on les aide à... qu'on s'arrête, qu'on... Bon, alors Didier Sicard propose plutôt, comme Leonetti, une sédation terminale. Là, il faut voir. Et puis bon, il y a le gros problème de la néonatologie qui est très différent et qui pointait les limites de la loi Leonetti, mais Leonetti en est conscient. Donc je pense que ce rapport est assez équilibré et je crois qu'il y aura des débats et j'espère qu'ils ne seront pas faussés par des personnes qui font de cette question une sorte de combat qui serait semblable à l'ouverture du mariage homosexuel, l'avortement. Ça n'a rien à voir.
Merci Corinne Peluchon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, éléments pour une éthique de la responsabilité, et que votre ouvrage « Tu ne tueras point » sortira aux éditions du CERF. L'équipe de Hors-Champ, Julien Douminc, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde, vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.